Avec un stylo bique j'aquarelle, fumer une cigarette avec encore le parfum du café dans la bouche, se glisser dans les draps frais, regarder son bureau enfin débarrassé des piles de papier, déguster une bière bien fraîche après une journée de randonnée, fendre la mer en crawlant vers le large, faire une partie d'ambassadeur après un bon dîner, rire avec des amis, humer l'odeur de la terre après la pluie, s'imprégner du parfum d'encaustique d'une vieille maison, partager l'émerveillement d'un enfant à la ménagerie du jardin des plantes.
Prendre le petit déjeuner dans le silence, en contemplant le jardin, marcher au bord de la mer, regarder le ciel, observer la forme des nuages, traverser un sous-bois au filtre quelques rayons de soleil, cueillir des mûres en bordure d'un chemin, les manger aussitôt. Regarder un arbre. Boire une coupe de champagne, en être aussitôt grisé. Esquisser quelques pas de danse, rire avec ses copines, parler avec humour. Acheter un cornet de glace au café par une chaude journée estivale. Recevoir une carte postale avec une vue inattendue. Nager dans l'océan après avoir été submergé par les vagues. Déambuler dans les allées ombragées du Père Lachaise ou de l'Arboretum du Bois de Vincennes. Lire avec délectation Sido de Colette. Le jour de son anniversaire, découvrir les grottes de Lascaux copie 4 et se demander pourquoi avoir tant attendu. Être profondément égoïste. Converser avec de parfaits inconnus rencontrés au supermarché, dans le bus. Regarder les jeunes qui démarrent en trombe pour attraper le tram et me clouent sur place. Observer les pigeons du parc Saint-Roch, les personnes qui les nourrissent, les quatre poules qui squattent le dernier lot où j'habite, suivi d'un couple d'hirondelles. Boire du vin chaud, place Carnot. Écouter le carillon de l'église Saint-François, jouer au Mikado ou au risque les soirs de diffusion de matchs de foot à la télé. Acheter un grand cornet de frites maison chez Zuba, dont le propriétaire est égyptien, remettre à demain, à la semaine prochaine, ce que je peux faire aujourd'hui.
Le soleil qui se couche, le rougeoiement à l'horizon, le claquement du bouchon de champagne en préambule à la nouvelle année, une voiture qui du lointain me dépasse, le crissement du gravier, les graines de cacao, le croquant de la salade verte mêlée au fondant de la pomme de terre chaude, les rêves, les cauchemars, le tricot, un pull orange, l'œuf attentique de ma grand-mère, les pies qui jacassent, les ruisseaux bouillonnants, les tranquilles larmes du citron qui se déploient en volute un thé brûlant, un tourbillon du vent, des coques de noix, l'étincelle du désir, le tic-tac de la pendule de la salle à manger, la caresse du rideau effleurant ma joue d'enfant.
Le marchepied du train qui s'en va à Paris.
Une heure de lecture tranquille.
Détricotage des petites et grandes vies des compagnons de voyage.
Ce qu'ils font dans la vie.
Quel âge ils ont.
Paris.
L'entrée dans le silence de la salle à l'épée de bois.
Voix feutrée des comédiens qui répètent.
Mezzanine baignée de l'odeur du café.
Petite douceur sous l'œil du bœuf.
Début d'automne.
Couleur.
Feuilles envoyées au tapis par le vent de novembre.
Odeur du feu de bois.
Plaisir de se glisser dans un lit douillet sous le fluffy de la couette moelleuse.
S'endormir quand on est bien fatigué.
Ouvrir son livre, là où on l'a laissé la veille.
S'étirer de bien-être.
Regarder tomber la neige.
Première gorgée de chablis de soir à l'apéro.
Chocolat chaud et bien épais quand on rentre de randonnée.
Acidulé du limoncello à une terrasse dove parliamo italiano.
Fumée blanche qui sort des cheminées en hiver, comme dans les contes de fées.
Patricia Petitbon qui chante Mélancolie.
Deuxième partie, ailleurs, c'est où ?
Le bout du monde. L'autocar les déposa à Cerbère. Ils s'attardèrent un moment sur une petite place bordée de palmiers devant une immense ancre marine posée là comme une sculpture contemporaine. Le long de la route, quelques immeubles de 3 étages serrés les uns contre les autres avec leurs façades de différents ocres. Une enseigne de restaurant, le bout du monde. Ils firent quelques pas sur la plage de Galais, déserte en cette saison. Puis ils traversèrent par la rue principale la petite ville aux volets clos. Ils longèrent alors la voie ferrée en surplomb, tout en remarquant quelques villas typiques et surannées de l'autre côté de la route. Apparut bientôt à leurs yeux, la haute façade toute blanche d'un étrange bâtiment dont la forme évoquait celle d'un paquebot, la proue orientée vers l'Espagne. C'était l'hôtel Belvédère du Rayon Vert.
Il était un peu plus de 15 heures lorsque le jeune couple sonna à l'interphone. La gardienne ouvrit la porte. Après les quelques formalités d'usage, elle les conduisit à la chambre qu'ils avaient réservée pour la nuit. Ils trouvèrent amusant le mobilier des années 30 et le carrelage à l'ancienne. Une petite plaque indiquait que Miss Tinguette et Maurice Chevalier avaient occupé cette chambre. Ils sortirent sur le balcon et apprécièrent l'aspect tout à fait insolite de la voie ferrée juste en contrebas.
Vous êtes donc arrivé par l'ancienne route de Perpignan. Maintenant, si vous êtes prêts, je vous amène pour la visite du navire. Construit d'après les plans d'un architecte perpignanais qui s'est inspiré de l'architecture navale.
Ils descendirent au premier étage dans la salle de restaurant aux larges baies vitrées avec de grandes tables rectangulaires garnies de nappes blanches. Et contemplèrent un moment la mer qui se confondait alors avec le ciel. Tout en passant d'une pièce à une autre, cette femme volubile qui habitait les lieux, la cinquantaine, cheveux courts et blonds, leur raconta, ponctuée d'anecdotes personnelles, l'histoire de l'hôtel du Rayon Vert.
Tout commence par une salade de pain perdu dans une gare, au hasard.
Le cliquetis de la montre goussée. Sur les quais, il compte barbichette et haute forme. 3331, 3357, 3222. Elle tire la chevillette. Des pains perdus, il n'y en a plus. 3744, ça suffit. Deux index, deux bouchons, quatre pattes, un lapin tout blanc.
La fillette, œil circonflexe, se fige. Le lapin sur ressort glisse du chapeau. Escapade, 3. Locomotive entre en gare, 1000. Contrôleur, sifflet strident, 4. Horloge, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lapin empressé, fumé, en brouillardise. Intérieur, une pendule, une galerie. Il s'enfuit. Elle suit. 1000 pas, 1000 vaches, 1000 dioux. Des pierres, des pavés, des cailloux. Elle ramasse. Comme le chemin. Perdu dans la forêt noire, crème anglaise et fruits rouges, sa robe déchiquetée. Se cacher à l'heure du goûter. Cartes envolées, service à thé emporté, coque de noix. Elles ondulent. L'océan roi au cachot, matelot cachoté.
Ailleurs, elle s'échappe. Ailleurs, enchantement. Ailleurs, un train sifflera 3000.
Tout finit par une salle des pas perdus à la gare Saint-Lazare.
Quel est votre ailleurs ?
Ailleurs ? Quel mot bizarre, se terminant par un S, comme si ailleurs ne pouvait être que pluriel. Pour moi, il l'est. J'ai passé une grande partie de ma vie dans les ailleurs, mais peut-être que je confonds voyage et ailleurs. Les deux questions que l'on m'aura le plus posées dans ma vie sont « Tu reviens d'où ?» et « Quel est ton prochain voyage ?» Bref, pour les autres, je suis la femme de l'ailleurs. Je perçois cette attirance pour l'ailleurs comme une richesse, la curiosité de la géographe, de l'auteur de guide touristique insatiable dans sa découverte de nouvelles contrées, de paysages variés et surtout de rencontres. Mais parfois, ma quête de l'ailleurs me fait plus penser à une fuite, fuite de la solitude, de l'effort.
Un ailleurs près de chez moi. Toutes les semaines que je m'offre un ailleurs à 10 minutes à pied de chez moi, rue Pitard, dans le 15e arrondissement de Paris. Au rez-de-chaussée d'un immeuble moderne, je pousse la porte et me voici au milieu d'étrangers venant du monde entier. Je m'installe dans la salle des ordinateurs. Pour le moment, c'est vide, mais dans une demi-heure, on pourra à peine circuler dans la pièce remplie de poussettes et de valises. La plupart des familles qui viennent ici ne sont pas logées. Elles errent dans les rues, dorment dans les gares ou sont exceptionnellement hébergés la nuit dans les urgences des hôpitaux quand il fait froid. Tous les matins, parents et enfants viennent ici avec leurs bagages pour que durant quelques heures, elles prennent un petit déjeuner, se douchent, lavent leur linge.
Une femme africaine s'approche timidement. Je ne sais pas comment taper un texte sur l'ordinateur, vous pouvez me montrer ? Elle s'appelle Lady et vient de Côte d'Ivoire. Deux petites filles de 9 ans s'installent devant l'ordinateur voisin. L'une est guinéenne, elle ne parle que le néerlandais, mais ça ne lui pose pas de problème pour discuter avec sa nouvelle amie, une arménienne, élevée à Berlin, qui s'exprime en arménien et en allemand. Les voici lancées sur Internet à la recherche d'un jeu. Sur le troisième ordinateur, un Roumain se branche sur Facebook pour trouver les justificatifs de ses allocations familiales. Tandis qu'à côté, une jeune femme kabyle allait un bébé d'un mois en consultant son site mail. Un grand Africain me demande s'il peut laisser son bébé dans la poussette derrière moi. Il est mauritanien. Sa jeune femme le rejoint avec un petit garçon, suit une famille du Bangladesh. Le père veut imprimer leurs actes de naissance. Enfin, voici Gabriel, notre ange, un bel adolescent ukrainien qui, malgré sa surdité, arrive à communiquer avec tous grâce à la langue des signes. 3 heures ont passé. Tout le monde repart. J'éteins les ordinateurs. C'était un mardi matin chez Emmaüs, où je me rends toutes les semaines à la rencontre d'une multitude d'ailleurs, de vies croisées.
Ailleurs, c'est loin. Mais il suffit d'un pas de côté et on y est. Aïe! heurt, ça fait mal. L'ailleurs titille, fourmille, frétille, défibrille, jamais ne roupille. L'ailleurs picote, asticote, monozygote, clapote, compote, il met à vif, à coups d'éperon, fuite en avant, cabrage, abordage, naufrage, plaquage, trucage, filmage. Ailleurs, c'est un tour du monde, une frontière entre le voyage et la maison. Un mot dit par un couple qui ne s'aime plus, dit Margot, la petite fille. Ah, heure après heure, le temps coule à flot, et jamais ne revient ni ne retient l'instant si précieux. S'accrocher au présent, oublier le passé, se souvenir du futur avant qu'il ne s'enfuit, ne pas s'éloigner, oublier le pas de côté, le point de côté torpille le marché, le marcheur d'ailleurs.
Mon ailleurs, lundi 13 novembre 2017, centre médico-pédagogique, chemin de Moularès, 34 000, Montpellier. Vous avez demandé à nous voir quel est votre souci.
Mon ailleurs.
Décrivez-le-moi.
C'est comme un aspirateur.
Ça se manifeste comment?
Il est toujours là, dans l'ombre. Il m'attend. J'ai beau lui tourner le dos, il est encore là. Je le sens. C'est plus fort que moi, je prends des rendez-vous avec lui. Je lâche ce que j'ai à faire pour le retrouver.
Et quand vous ne le retrouvez pas?
Il se venge. Je laisse les clés sur la porte d'entrée, la carte bleue dans le distributeur. Ça n'arrête pas.
Vous êtes seul à le retrouver?
Oui, oui. Partager, vous voulez dire? Le chat, peut-être.
Qu'est-ce qui vous inquiète?
Je suis tête en l'air.
Troisième partie, surprise dans les archives.
Clifden, le 5 octobre 1927. Cher Sir Lawrence, j'ai l'impression de me réveiller d'un songe de sable, de dunes, de chevauchée à dos de chameau. Votre ouvrage « La révolte du désert » m'a tout simplement transportée ailleurs et je m'éveille tout étonnée de contempler par la fenêtre de mon boudoir le parc de Clifden s'étendant à l'infini, symphonie de vers et de teintes automnales. J'entends les chiens de Lord Astor et de son équipage revenir de la chasse aux renards. Comme tout cela semble vain quand on sort de la lecture de vos affrontements avec les Ottomans, de vos séjours sous les tentes bédouines, de vos longues discussions avec le prince Faisal. Sir Churchill m'avait longuement parlé de son conseiller au Colonial Office, de votre rôle, mais je n'imaginais pas que vous ayez pu ainsi vous fondre parmi les combattants arabes, seuls anglais, parlant leur langue, portant leurs costumes et chevauchant leurs montures. Lors de notre rencontre à la Chambre des communes, vous étiez sanglé dans l'uniforme britannique qui vous sied fort bien. Mais votre regard était ailleurs, nostalgique des grands espaces. Parfois, j'ai moi-même cette nostalgie quand je repense à mon Amérique natale, ou à la traversée de l'océan pendant des jours et des jours. Je rentrerai bientôt à Londres et je serai fort heureuse que vous m'accordiez une visite. J'aimerais vous entendre parler de ces contrées arabes et ottomanes et de leurs conflits qui sont toujours d'actualité. Lady Nancy Astor.
Samedi 20 juin 1915. Docteur Jung, je me permets de vous écrire car je viens d'apprendre que vous traitez Madame Alba Schimber-Mahler pour mélancolie aggravée. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Alma m'a quitté depuis plusieurs mois. C'est donc en toute objectivité que je vous écris. Alma et moi, nous sommes aimés avec passion. Elle fut mon amie, ma muse, mon Eurydice. Elle était et reste l'amour de ma vie. La bonne fée nature s'est agenouillée au pied du berceau de cet enfant, belle, lumineuse, amusante et si intelligente. Comment a-t-elle pu faire croire qu'elle était affligée de mélancolie ? Extravagante, elle l'est, désespérée, certainement pas. Sa folie se niche dans son désir de conquérir la puissance des hommes qu'elle admire. Un appétit souverain, impérieux, animal. Une fois la conquête établie, tel un général sur son champ de bataille, elle détruit. De nombreux cœurs se sont brisés à la douceur angevine de son visage, à la fragile tendresse de son regard, au cristal de ses éclats de rire. Klimt, Zelinski, Mahler, qu'elle trompa sans vergogne avec Gropius. Elle était veuve lorsque je l'ai rencontrée, mais je n'étais pas le premier. Il y eut avant moi ce cher docteur Kammerer. Docteur, tout comme vous, éperdu fou, amoureux d'elle, il sollicita son aide pour les travaux de recherche en biologie. Sur des mentes religieuses. Quelle ironie du sort ! L'observation de son propre reflet dans les agissements assassins de ces femelles insectivores fatales à leurs débats amoureux. Je lui ai tout donné, mon cœur, mon corps, mon âme. J'ai caressé ses lèvres de mes mots, ses courbes enchanteresses de mes pinceaux. Je lui ai offert mes plus belles œuvres. Elle fut l'ange qui m'ouvrit les portes de l'enfer. Ma vie, un chaos. Quel sera le prochain ? Vous ? Méfiez-vous, docteur Jung, cette femme est une ensorceleuse. De ses charmes, vous serez épris, et quand votre âme vous lui aurez fait don, elle la piétinera telle une misérable blatte. N'imaginez pas que ce soit la rancœur ou la jalousie qui me fait écrire cette lettre. Non, en aucun cas. J'ai pitié de votre condition d'homme admirable et admiré. Votre puissance, votre talent d'Achille, docteur Jung. La faiblesse qui vous anéantira, si vous n'y prenez garde. Post-scriptum. Et si malgré cet avertissement, vous veniez à tomber amoureux de mon Alma, sachez, docteur Jung, que je me réjouirai de votre aveuglement. Vous pourriez prétendre à conquérir ce cœur si fragile. En devenir le roi, sans aucun doute. Mais si, sur l'échiquier amoureux de la belle Alma, je suis le fou, vous ne serez jamais qu'un vulgaire petit pion de bois. Le jouet provisoire et périssable d'une reine qui ne peut imaginer vivre sans l'absolue passion de son fou.
Velette-sur-Mer, mardi 17 juillet 1917. Cher Amédéo, comme tous les après-midi, je suis sur la plage. Aujourd'hui, il fait grand soleil avec une légère brise. Je viens de me baigner, mais la Manche est toujours si froide. Adossée maintenant contre la falaise, bien qu'avec tous ces galets ce ne soit pas très confortable, j'ai une belle perspective sur la mer et les gens. J'emporte toujours mon carnet de croquis. Aussitôt ouvert dès que quelque chose attire mon regard. C'est pour moi comme un carnet de voyage, pour m'exercer à une grande rapidité d'exécution. Par exemple, je trouve plaisant de représenter toutes ces familles installées là pour la journée, autour de tentes rayées bleues et blancs. Le matin, je pose mon chevalet dans le jardin, près d'un cerisier. En ce moment, je termine le portrait de Germaine, représenté derrière la fenêtre ouverte de la chambre. Elle est accoudée sur le rebord, le visage contemplant l'horizon, porte sur la tête le chapeau cloche que nous avons confectionné quand elle est passée me voir. Il est bleu et quelques boucles de cheveux roux s'en échappent. En fond, j'ai peint la chambre avec les meubles de Guingois afin d'obtenir un effet de profondeur, un peu à la manière des cubistes. Tu vas encore dire que je charge trop mes fonds. Mais moi, ça m'importe. J'aime représenter les gens dans leur réalité quotidienne et aussi peindre des paysages différents selon le mouvement de la lumière et des saisons, même si je ne peux en saisir qu'une petite partie. Je continue à faire des photos et j'ai envie de m'en servir pour faire des collages. Je voudrais vendre les bijoux et les vêtements que j'ai créés auprès de nos amis de Montparnasse. J'espère que ton exposition se prépare et que tout se passera bien. J'ai hâte de rentrer pour être présente au vernissage et aussi retrouver notre atelier de la Grande Chaumière. Je vais donc écourter mon séjour et rentrer le plus vite possible à Paris. Et puis je n'ai aucune envie de retourner à l'Académie Colarossi. Mais mes parents, que vont-ils en penser? Le soir, j'ai de savantes conversations avec le chat de la maison installé sur mon lit. Régulièrement, je lui demande ce qu'il pense de tout ça. Je t'embrasse. Jeanne.
Ma petite actrice-souillette, mon petit cabri, mon toutou, mon olia, que je suis heureux de vous écrire. Mais vous ne m'avez pas encore envoyé de lettre. Nous avions convenu tous les deux jours. Cela fait trois jours. Rien de vous. Sûrement, vous avez de bonnes raisons. Tous les amis qui passent, Grigorovitch, Gorky, Morozov, Bounine, me racontent combien vous êtes une actrice extraordinaire, intelligente, fine, et qu'à partir du troisième acte, grâce à votre talent, vous menez la pièce. Souvenez-vous, Macha est malheureuse. Ne soyez pas triste. Des gens dans le souci ne le montrent pas. Ils rêvent, ils s'irritent. Je suis persuadé que vous suivrez ce conseil, et sans doute l'avez-vous déjà fait. Vôtre, d'après la description de votre jeu, dont on me rend compte. Je suis fier de vous quand je lis dans Le Temps Nouveau ou Le Réveil Matin des critiques positives sur votre travail. Rapportez-moi comment se passent les répétitions. Dépeignez-moi les réactions du public. Saint-Pétersbourg n'est pas une ville accueillante pour le théâtre d'art. Quittez Saint-Pétersbourg après la Semaine Sainte et venez me voir avec Macha. Ici, à Yalta, il fait une chaleur étouffante. Les arbres sont déjà desséchés. Une poussière invisible nous asphyxie. J'ai été malade ces derniers jours. Maintenant, cela va mieux. Je sors en fin d'après-midi. Je jardine. Je m'ennuie. Peu de personnes viennent me voir. Je n'écrirai plus de théâtre. Je suis vieux. Je vous en prie. Venez me voir après les Pâques. À moins que vous n'ayez quelqu'un dans les yeux, je comprendrai ce silence. Je suis loin, malade, gâteux. Nous passerons une semaine ensemble cet été. Nous pourrons nous rendre à Helsinki, longer les côtes du golfe de Finlande, celle du golfe de Bosnie pour atteindre la Norvège, puis revenir par la Suède. Je te serre fort dans mes bras. Je t'embrasse fort. Porte-toi bien. Sois gai, ne m'oublie pas. Cara diva assoluta. Enfin, vous voilà devenu à peu près raisonnable. Enfin, vous consentez à baisser la garde. Comme j'en suis heureux. Cara divinita. Et comme ma joie est grande à l'idée de vous retrouver dans ce havre de paix que vous décrivez avec la naïveté d'une petite fille. J'attends avec impatience de partager cette parenthèse nouvelle, un peu de vie qui vous ressemble si peu, enfin pour nous, quelque chose d'une vie ordinaire, ici-bas. Je commence à mesurer le terrible danger de cet engrenage dans lequel nous nous trouvons, vous et moi, prisonnier de l'exigence d'être tout en haut et rançonné par ce désir de monter sans fin, au risque de nous rompre le cou. Ne nous voilons pas la face, Marie. Les critiques ne nous épargnent pas et nous ne pouvons pas faire profil bas. Comme j'aurais voulu vous épargner ce constat. Pourtant, très réaliste, vous avez atteint des sommets, mon cher ange. C'est pourquoi je crois passionnément que vous pouvez triompher de l'adversité et que l'expérience nouvelle qui vous est proposée par le Théâtre Reggio de Turin est pleinement à votre portée. Je le sens au fond de moi-même. Des vêpres siciliennes qui vous virent débuter à la Scala vont tracer pour vous le chemin qui va nous faire approcher à nouveau la scène de l'opéra, vous donnant l'opportunité de vous y exprimer, de créer, de vous redonner un nouveau souffle. Évidemment, je vous y aiderai. De toutes mes forces, je vous aime tant. Et je crois à cette nouvelle naissance. Je vous supplie de répondre favorablement au Théâtre Reggio. Il y va de votre vie et de la mienne. Je vous le jure. La tâche est grande, mais tellement exaltante. Vous savez que Serge Giffard assurera la partie chorégraphique ? Au-delà de cela, cara diva, je sais que le bonheur retrouvé ira de pair avec une remontée sur scène. Je vous en ai réservé la surprise jusqu'à aujourd'hui. J'ai enfin des contacts plus que concluants avec votre agent Sander Kolinsky, qui, malgré le froid passager de vos relations, envisage pour vous la possibilité d'une série de concerts à travers le monde. De même, tenez-vous bien que la production au Royal Festival Hall d'un unique concert d'air et de duo d'opéra que nous ferions ensemble. Maria, je ne saurais être plus fier. Je suis le plus heureux des hommes. Je ne vois pas de projet plus exaltant dans l'immédiat. Nous sommes des battants, Maria. L'art lyrique est notre vie. C'est lui qui nous la prendra et lui seul. Traitez-moi comme un dieu. Je vous traiterai comme un ange. Laissez-moi commander. À très vite, cher ange. Il me tarde de vivre ces quelques jours au grand air, loin des grands qui nous ont tant déballés, mais minés. Il me tarde de retrouver vos grands yeux dans lesquels je compte bien ne trouver aucune angoisse. Votre Pipeau.
Quatrième partie. Race de poing.
Plaisir du silence. J'ai le plaisir du silence. La danse des myriades à l'orient du soleil. Clair obscur. Vis le cœur de l'infante, la fleur des poussières au fil des comètes, éclat des ténèbres. Rit la gueule des hyènes, le frisson des aulnes et la noirceur lunaire, lueur d'espoir. Crie la plume du poète, la vie en soupirail au scintillement des scories. J'ai le plaisir du silence.
Comment dire cela ? Les mots n'y arrivent pas. Laissez venir le souffle des bribes à fleur de peau. Brin d'herbe qui s'affole, un lézard émerge et se cale, immobile sur une pierre. Soleil d'été brûlant. La peau s'imprègne d'une douce tiédeur, lumière rouge derrière les paupières, chant des cigales. stridulation des grillons, senteur du thym, du romarin, douze coups au clocher voisin, moment délicieux.
Les Polonias. À la fenêtre, de hautes façades blanches, et toutes les nuances de vert dans le jardin. Sur les Polonias, une profusion de fleurs violet clair, et innombrables les pâquerettes dans l'herbe vive. Du ciel bleu, sans nuages. Un rayon de soleil traverse la cuisine. Le sifflement de la bouilloire s'est tu. Posé sur la table, une tasse de café chaud, un bouquet de fleurs séchées et un bel assortiment de miel. Ils accompagnent une resplendissante brioche tout juste sortie du four.
Le cimetière des protestants. Vivant est le cimetière des protestants, fringant. Les locataires sont protégés par d'immenses fusains érectiles et des cèdres bleus dont les fêtes emmêlées font barrage aux agressions climatiques. Éternelles. Pas de fleurs coupées, mais de petits carrés de pelouse, de lierre, bambou, papyrus, poème taillé très court, habité par un silence enjoué. Des mouettes crient, des pies se chamaillent, des tourterelles roucoulent, les merles sifflent. D'autres oiseaux gazouillent, tous cachés. Au loin bourdonnent les voitures, chuinte le tram. Je déambule. Lit des épitaphes, découvre le quartier des peintres et aussi disperser les caveaux d'anciennes familles d'illustres médecins. À l'abri des lumières veloutées, des berceuses chuchotées, la ville bouillonne, offre son spectacle aux gisants. Et je me balade insouciant dans le corps du cimetière, tout flamboie, décroît, croît. Chaussée de caoutchouc, j'enfonce le sol, protégé de la claire obscurité, enrobé d'une vague solitude, la peau caressée, le corps irradié, ivre de raies de lumière, de berceuses inaudibles, j'appelle mes morts.
Je marche à travers le poème d'Anne. Clair-obscur, éclat de ténèbres, d'où te vient cette lueur d'espoir, toi la fille au cœur d'infante, si tendre? Prisonnière entre les bras des aulnes, à l'assaut de ta forteresse ténébreuse, entends-tu le cri des hyènes? Oublie-les. Vois-tu au bout du tunnel cette lueur blanche qui t'appelle? L'espoir est là. Cède à la clarté, à l'obscure lueur, au frisson rassurant. La lune veille. Les gueules obscènes sont vaincues, elles détestent le silence. Danse, danse, écoute la clameur du poète. Au loin, qui t'appelle? Rondeur lunaire, brillance.